Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme,
le cheval.
Le frison. Non, le frison.
Le frison, ah oui, 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 le frison, frison, frison. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie, avec aujourd'hui autour de la table Karine.
Bonjour.
La reine des frisons. Et Jean-Claude.
Bonjour.
Aussi le roi des frisons. Bon, on va partir sur une chevauchée de 23 minutes. Allez. Alors, on va retrouver notre sujet de la semaine dernière, donc les fameux 1, donc, qui était encore surnommé, on le sait, le fléau de Dieu. Donc, ces cavaliers démons sortis tout droit de l'enfer qui déferlent sur l'Empire romain d'Occident et provoqueront un traumatisme majeur au sein des populations. Un traumatisme qui perdurera du reste des siècles et des siècles. Un peuple cavalier venu de nulle part, à l'époque, on pensait qu'il venait de nulle part, peut-être même de l'enfer, et dont le nom de leur roi fait encore trembler, évidemment, tout le monde connaît Attila. Là. Alors un lien très fort existe entre le cavalier 1 et son cheval. L'historien latin d'origine grecque Ammien Marcellin, qui a vécu à la fin du 4e siècle, remarque leur virtuosité de cavalier et il dit « ils sont collés à leurs chevaux qui sont téméraires ». Il est vrai, mais affreux, et parfois ils montent à la manière des femmes, c'est-à-dire en Amazone en réalité, pour vaquer à leurs tâches ordinaires. Et tâches ordinaires, hein, pas grandes expéditions. Et lorsqu'ils sont appelés à délibérer des questions importantes, ils se rassemblent tous à cheval. Voilà. Donc tout se passe à cheval, d'après cet auteur latin. Enfin et surtout, ce sont leurs techniques de combat qui déconcertent et effraient les Romains. Et un officier raconte à ce propos, lorsqu'on les provoque, ils se battent parfois en combat singulier. Mais ils entrent dans la bataille en formation, tandis que la clameur assourdissante de leur vocifération produit un vacarme sauvage. Et comme ils sont équipés légèrement pour des manœuvres rapides et imprévisibles, ils se dispersent brusquement à dessein par petits groupes et passent à l'attaque, se ruant dans le désordre et causant un massacre effroyable. Ceci dit, oui, c'est vrai, c'était pas des... Enfin bon, ils savaient se battre. Et parce qu'ils se déplacent avec une extraordinaire rapidité, il est difficile de les repérer lorsqu'ils franchissent un rempart ou pillent un camp ennemi. On peut sans hésitation les considérer comme les plus redoutables de tous les guerriers. Parole de Romain, les Romains savaient quand même... C'est... Bon,
de quoi ils parlaient ?
Vous savez de quoi il parlait, oui. Alors, Attila, né vers 395, quoi, devenu roi des Huns, il partage dans un premier temps le pouvoir avec son frère qui s'appelle Bléda, qu'il fera par la suite assassiner. Donc voilà. Il règne sur la Pannonie, donc une région d'Europe centrale comprenant l'ouest de la Hongrie, une partie de l'ex-Yougoslavie. Voilà. À la différence de ses prédécesseurs, Attila ne semble pas vouloir annexer de nouveaux territoires. Malgré tout, les Romains se méfient de lui et prennent les devants en envoyant une ambassade le rencontrer pour négocier avec lui un traité de non-agression. Un accord est trouvé. Constantinople, donc l'Empire romain d'Orient, achète la paix en acceptant d'une part de verser un tribut annuel de 700 livres d'or, qui était une somme absolument considérable à l'époque, et également de permettre aux Huns de commercer librement. Alors il faut savoir que les Huns considéraient un petit peu les Byzantins comme le roi de Byzance, comme un esclave en réalité, comme, même pas un sujet, comme un esclave. Voilà. Alors les deux clauses du traité procurent au chef un des revenus considérables, on l'imagine, qui lui permettent de s'imposer auprès des différentes tribus et de les fédérer en un seul et vaste ensemble soumis à sa seule autorité. Mais malheur à Constantinople, effectivement, et ça Attila prévient bien, si les clauses du contrat ne sont pas respectées. Là, on ne va pas rigoler. Et c'est ce qui arrive, effectivement, vers 440. Byzance ne paye pas. Et en représailles, des villes, un certain nombre de villes sont prises, pillées, incendiées et leur population décimée. Quand on appelle population décimée par les Huns, ce n'est pas une personne sur trois.
Il n'y a plus personne. Tout le monde.
Voilà, exactement. Et même Constantinople sera inquiétée. Voilà. Et la paix est à nouveau négociée et signée, mais par contre, Attila, en représailles, exigera que le tribut soit triplé, trois fois. Et il passera donc à peu près, pour donner une proportion, de 700 livres d'or, donc ça fait quand même un sacré poids d'or, à 2100 livres d'or annuel. Tous les ans, Byzance doit payer ça. Ah ouais, c'est bon.
Hein,
ça serait peut-être un truc pour monter notre pièce, faire un petit truc à la Attila, non? C'est ça,
ouais,
pour
pourquoi pas.
Hein, on peut essayer. Hein. Mais ouais, mais est-ce que tu sais te battre vraiment?
Non, mais il y a des gens qui savent le faire pour nous.
Ah d'accord. Ah.
On a des amis qui ont des amis.
Ah, oulala, il dit ça.
On a
avec...
des amis bien placés.
Ouais, ouais, on a l'impression de se trouver dans un film américain,
Borsalino,
là. Et alors, je reprends qu'en 4 ans plus tard, Constantinople oubliera, une fois encore, de payer le tribut. Attila menacera en représailles d'envahir la Grèce et, selon ses mots, de la réduire en poussière. Voilà. Alors, dans l'urgence, une ambassade est envoyée auprès du chef des Huns pour renégocier la paix. Elle est menée par un notable du nom de Maximin, secondé par un fonctionnaire qui s'appelle Phrixus. Et grâce à ce dernier, c'est grâce à ce dernier que l'on aura la première description crédible d'Attila, de sa cour et de son palais. Parce que pour les deux diplomates s'attendaient à découvrir une sorte de campement barbare, de tente. Et ils pénètrent en réalité dans une petite ville aux maisons de bois qui entoure un vaste palais en bois lui aussi. En revanche, l'accueil que leur réservent les Huns est glacial. Ben oui, c'est l'heure des stalactites. Les reproches pleuvent. Non seulement dit Attila, le traité a été violé puisque le tribut n'a pas été payé, mais pire encore, les armées de Constantinople se sont servies de mercenaires Huns pour le combattre, lui, le roi des Huns. Vous m'avez piqué des soldats pour me combattre. C'est pas bon. Malgré tout, bon, les Byzantins sont bons diplomates. Un nouveau traité de paix finit par être négocié. Et cette première ambassade sera suivie par une seconde quelques années plus tard qui se conclura par la signature d'un accord de paix entre l'Empire romain et les Huns. Alors, accord de paix, il faut bien entendre que c'est pas embrassons-nous, hein. C'est bon, vous savez où vous êtes, vous savez nous, un, ce qu'on peut faire, moi, Attila, ce qu'on peut faire, donc vous vous tenez à carreau.
Il a renégocié le prix ?
Oui, évidemment. Ah. Un petit peu. En fait, c'est à la suite d'un quiproquo. Alors ça, c'est marrant qu'Attila avait consenti à signer cet accord de paix. Le roi des Huns avait cru comprendre que l'empereur de Byzance, qui s'appelle Valentinien III, lui donnerait sa sœur comme épouse. Et grâce à ce mariage, Attila était en droit de s'approprier l'Empire romain. C'est ce qui visait Attila. Et quand Valentinien, évidemment, oppose un refus catégorique, Attila prend ça comme un affront et organise alors, à travers l'Empire romain d'Orient, une série de raids de pillage. Il choisit dans un premier temps la Gaule comme objectif. Ouais. Et au printemps 451, Attila et son ami franchissent le Rhin et pénètrent en Gaule. Alors là, c'est vraiment la grande chevauchée qui a vraiment fichu la pétoche en Europe occidentale et en particulier, évidemment, le clergé monté au créneau et d'une certaine façon a, comment dirais-je, fixé dans la mémoire collective des peuples d'Europe occidentale ces fameux Huns qui sont absolument non civilisés, barbares, enfin même plus tout à fait des hommes, enfin des espèces de démons échappés de l'enfer. Alors donc Attila arrive avec son armée, donc les villes de Metz, de Troyes sont prises et incendiées. Par contre, bon, il évite Paris, non pas parce qu'il voulait pas, mais bon, c'est une ville défendue par des remparts puissants. Et un petit peu comme les Mongols au début, les Huns n'ont pas les Mongols plus tard, plus exactement historiquement, les Huns n'ont pas de machine de siège. Donc, des remparts costauds, ils ne savent pas trop comment les prendre. Donc, c'est là où est née la légende de Sainte-Geneviève qui aurait défendu Paris, qui se serait investi, etc. Voilà, et qui aurait empêché Attila et les Huns de prendre la ville. En fait, bon, Attila n'a pas voulu la prendre parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas la prendre. Et après ses premiers succès à Metz et à Troyes, le roi Hun redescend en direction d'Orléans, qu'il met aussi à sac. Alors on va s'accorder maintenant, Karine.
Une pause musicale avec Carlos Santana avec le titre Viva la Vida. Destino, de acuerdo con su alma.
La seconde partie de l'émission, on va parler d'un cheval que personnellement je trouve absolument formidable, mais vous aussi, toi Karine.
Non mais il n'est pas formidable, c'est le plus beau cheval qui existe sur Terre.
Voilà, donc on est parti plein pot dans le sujet. Alors ce plus beau cheval, Karine, qui existe sur Terre, c'est quoi comme cheval ?
C'est le Frison.
Le Frison.
Le Frison. Un cheval tout noir, magnifique, avec des longs crins, des fanons au niveau des pattes. Un cheval qui vient de Hollande, qui à la base était plus un cheval de trait. Les ancêtres étaient des chevaux très lourds et pas très grands. Et plus ça va, plus la race s'affine. C'est devenu du demi-trait. Même les nouvelles générations tendent à être de plus en plus sport et de plus en plus grand. Mais ça reste un cheval vraiment d'une grande beauté, très gentil, à sang froid. Voilà.
D'accord, donc c'est un cheval qui maintenant, Jean-Claude, qui finalement, on peut aussi bien, si on achète un Frison par exemple, le mettre attelé à une charrette, hein, petite charrette, hein, monter, etc. Est-ce que c'est un cheval qui saute ?
Tous les chevaux sautent.
Oui, mais enfin bon,
mais c'est
de
pas,
façon...
enfin, c'est pas ce... là où il est le plus fort. Quoi.
Il préfère franchir que sauter, je suppose.
Ouais, mais c'est un cheval assez lourd, hein, donc... Si on le prend tout petit, on peut l'éduquer comme n'importe quel cheval. Mais on en voit rarement, en tout cas dans les concours d'obstacles, il n'y en a pas. Il n'y en a déjà pas beaucoup dans les concours de dressage. On les voit beaucoup plus à l'attelage ou monté. Et en liberté aussi, maintenant, en spectacle.
Alors justement, oui, en liberté, je crois que Jean-Claude, tu as une certaine habitude de travailler des frisons en liberté, puisque tu as des frisons,
oui.
Effectivement.
Oui,
alors,
oui.
Le caractère du frison, travailler en liberté, il faut vraiment que le cheval participe.
Oui, en liberté, il faut qu'il participe, bien sûr. Pratiquement tous les chevaux, à partir du moment où il y a une bonne éducation, ils participent parce qu'ils adorent ça, ils aiment ça. Il y a moins de contraintes et donc c'est beaucoup plus agréable pour eux. La particularité du Frison, on peut dire qu'il est, comme disait Karine justement, il est plutôt froid. Donc
c'est pas un émotif.
Si, quand même, mais pas trop. Certains frisons sont carrément froids, hein, carrément très froids. D'autres moins. Il y en a qui ont un petit peu d'énergie, mais c'est-à-dire que dans le travail de la liberté, ce qu'on a besoin aussi, c'est de l'énergie. Et ça, parfois, ça peut manquer sur le frison. C'est-à-dire que c'est un cheval qui peut avoir de l'énergie, mais en tous les cas, qui en a pas comme d'autres chevaux, par exemple,
oui,
comme les chevaux arabes, comme les chevaux espagnols, comme les lusitaniens, enfin.
Alors
voilà.
Justement, vous m'aviez fait remarquer tous les deux, Karine, toi Jean-Claude, que le frison finalement se fatigue assez vite.
C'est-à-dire comme il a pas c'est un sang-froid, donc finalement comme il a pas énormément d'énergie, forcément il a pas trop d'endurance.
Voilà. Ce qui pose un problème aussi si je puis dire un petit peu par exemple dans les spectacles ou les choses comme ça, il faut bien faire le timing.
C'est-à-dire que quand on travaille avec des chevaux en liberté, c'est certain comme on n'a pas de moyen de pression sur le cheval en liberté, forcément il part avec sa nature et son mental propre. Et sa nature, elle n'est pas expansive au niveau de l'énergie et au niveau du mental. C'est pas un mental de guerrier. Donc forcément, il y a des astuces qui sont, par exemple, de le préserver physiquement avant une performance pour qu'il ait un petit peu tout le jus, toute la pêche, toute l'énergie avant le spectacle. Parce que sinon, c'est un tout petit peu moins bien.
C'est un tout petit peu moins bien, Karine.
Par contre, il a l'avantage pour le spectacle en liberté, c'est un cheval spectaculaire. C'est-à-dire que les gens le remarquent. C'est un très beau cheval, il est tout noir, il a une grande crinière, il est fier, donc il a un port d'encolure très élevé. Donc même s'il fait pas grand-chose, les gens sont contents de le voir, ils se remarquent. C'est sa qualité principale, il est spectaculaire.
Oui, parce que déjà, pour donner un tout petit exemple, quand on était à Cheval Passion, donc il y avait un moment où
Passion à Avignon.
À Avignon. Donc, pour présenter des spectacles, il y avait des chevaux à l'extérieur qui étaient des chevaux ibériques, qui étaient mais vraiment magnifiques, quoi, des très très beaux chevaux. Et donc, je vais chercher ma jument pour une représentation, et bizarrement, il y avait 40-50 personnes autour de la jument. Autour des chevaux ibériques, il n'y avait personne. alors qu'on était côte à côte, hein, et alors qu'elle n'était même pas montée. Et les autres, les chevaux ibériques, ils étaient montés, placés, harnachés, les cavaliers étaient costumés. Enfin bon, là, la jument, elle était nue, quoi. Il y avait juste un licol autour de la tête, c'est tout. Et pourtant, tout le monde était fasciné, tout le monde regardait. Et c'est symboliquement aussi, le frison, il a ce côté noir, ce côté pur, ce côté puissant. Et donc, forcément, à partir de la symbolique, on peut très bien comprendre que le frison est un cheval qui attire l'œil. C'est un aimant, quoi.
C'est un aimant, oui.
D'ailleurs, on en trouve beaucoup au cinéma, des frisons.
Oui.
Hein, le dernier film, là, notamment, c'était Le Choc des Titans,
oui.
Où
oui.
Il y a le cheval Pégase. C'est un frison.
C'est un frison.
Il y en a plein de frisons dedans.
C'est le dernier exemple, mais on en voit dans beaucoup de films, parce que c'est vraiment un cheval très représentatif de ce que les gens s'imaginent du cheval, d'ailleurs.
Ah bah,
ce qui les fait rêver, c'est le grand cheval noir puissant.
Ce qu'on voit dans les spectacles de Zingaro, par exemple. Hein. Bah, ce grand frison, là.
Oui, il y en a, qui est décédé depuis.
Il est décédé
à New York, mais effectivement, oui, lui, ça a été l'emblème de Bartabas, c'était Zingaro, dont le nom est le frison. Ouais. Après, les frisons, pour le travail en liberté, ils demandent quand même une autre technicité que par rapport au cheval ibérique. C'est-à-dire que le cheval ibérique, comme on travaille beaucoup avec l'impulsion naturelle en liberté, puisqu'on peut difficilement lui influer de l'impulsion qu'il n'a pas, on n'a pas d'éperon, il n'y a pas d'enrênement, il n'y a pas de... Enfin, il y a un stick, mais bon, le stick, comme on n'est pas sur le cheval, il sert pas à grand-chose et on ne peut pas canaliser ni maîtriser l'énergie pour la développer quelque part. Donc la difficulté avec le frison, c'est effectivement de lui influer de l'énergie et on peut le faire à partir du moment où il en a un petit peu, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre ce qu'il n'y a pas à l'intérieur d'un cheval.
Oui,
mais
non, si c'est un chewing-gum mâché, c'est sûr qu'on ne peut pas faire grand-chose.
Pas possible. Voilà. Mais par contre, on peut arriver, et ça développe des qualités équestres pour la personne, pour l'écuyer, pour l'artiste, qui sont complètement insoupçonnées. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de travailler avec des chevaux ibériques, des chevaux de spectacle qui sont hyper réceptifs, au quart de tour, il y a du cabré à genoux et du galop, avec les frisons, eh ben, on apprend à apprendre surtout. Ça, c'est l'essentiel.
Oui, d'accord. Un petit mot? Karine?
Non, moi je suis entièrement d'accord. Moi je suis passionnée par le frison, donc c'est vraiment le cheval dont je rêvais depuis très très longtemps. Donc moi je m'éclate avec.
C'est le cheval de rêve de toute jeune fille.
Et ouais. Oui, mais après j'ai découvert les ibériques aussi là. J'en ai un, j'adore. Mais le frison, ça reste un cheval à part.
Ça reste un cheval à part.
Et en plus, pour apprendre, quand on débute par exemple dans la liberté, pour apprendre avec un frison, c'est entre guillemets plus facile parce que comme il est plus lent. On a plus le temps d'étudier et d'apprendre et de comprendre les choses. Alors qu'un ibérique, c'est tellement sensible que pour débuter, c'est un peu vif. Donc c'est une très bonne école, le frison, en plus.
Voilà.
On sent l'expérience.
Donc c'est une école aussi qui permet de prendre confiance, en quelque sorte. Parce que aussi, on a
un très bon professeur.
C'est un très bon professeur. Effectivement, c'est pas un cheval violent, c'est pas un cheval difficile à comprendre. C'est quand même un cheval assez logique dans ses évolutions, dans ses réponses aux différents.
Dans sa nature propre, il faut dire. Parce que quand même, il faut pas que toute personne pense que le frison, effectivement, c'est un cheval avec qui il ne peut rien arriver, ce qui est faux. Un cheval est toujours.
C'est assez bulldozer d'ailleurs, c'est assez brutus. Faut quand même le canaliser, lui apprendre le respect de l'homme, parce que sinon, comme n'importe quel cheval, il peut être dangereux.
Oui bien sûr.
Et surtout s'il y a eu une mauvaise éducation au départ, parce qu'on pense que c'est facile de le faire avec un frison, après ça peut être dangereux, puisque le cheval il va toujours apprendre des choses qu'il n'aurait jamais dû avoir apprises. Et là, ça devient dangereux.
Alors justement, question frison, Jean-Claude, tu es en train de monter une pièce qui sera représentée, donc une pièce où il y aura évidemment des actrices, un acteur. Est-ce qu'on peut dévoiler le nom de
la pièce ? La pièce est Mademoiselle Julie, donc c'est une adaptation, je dirais une variation libre de Mademoiselle Julie d'August Strindberg, qui est une pièce de 1888 et qui aujourd'hui on l'adapte de façon totalement contemporaine avec ce qui se passe au niveau de la créativité qui est le plus à la pointe, c'est-à-dire le cirque, la danse, la vidéo, le théâtre équestre, le dressage, la liberté.
Donc il y aura des chevaux sur scène en quelque sorte.
Et un frison.
Un frison sur scène, voilà. Je vois Karine a un sourire jusqu'aux deux oreilles, si je puis dire.
Ouais.
Et voilà. Et donc, Cette pièce, la première, elle aura lieu où, en fait, hein?
Alors, la première aura lieu au Haras National de Rodez, c'est-à-dire dans le Grand Manège.
Et grosso modo, à quelle époque,
hein? C'est aux alentours, je pense, du 13 juin.
11-12-13, je crois.
Voilà, ça doit être ça.
11-12-13 juin. C'est très lointain, d'accord. Voilà. Et ouais. Donc... on verra des acteurs à deux pattes, enfin un acteur et deux actrices à deux pattes,
oui.
Et des acteurs, un acteur au moins à quatre pattes.
Deux, mais s'il y aura un espagnol aussi.
Il y aura un espagnol. Avec le contraste, oui.
On va pas gâcher le plaisir.
D'accord, c'est formidable. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux et surtout aux frisons.
Et surtout aux frisons et un grand merci à vous deux. Ciao, ciao.